Page vive, une production de Mousse Boulanger dans une réalisation de Marcel Horner. Ce soir, Gilberte Relliet, poème posthume, blanc sur noir, en compagnie de Jeannine Buinzeau et Vahé Godel. Peu d'argent, peu de créances, peu d'atouts, peu d'Espagne, d'espérance, peu de tout. Mais peu d'air serait le comble. Oh, le vent, avec ce peu, que vous semble? En avant. Mais beaucoup de feux rebelles, tout là-haut, beaucoup d'astres de chandelles, s'il le faut. Beaucoup de campagnes fraîches, oh, regarde. Beaucoup d'eau qui se dépêche quelque part. Blanc sur noir, un recueil posthume de Gilberte Relliet paru aux éditions Panorama à Bienne, nous rappelle la mort de cet écrivain qui a peu suscité de commentaires, qui n'a pas eu droit aux grands hommages et qui pourtant est un écrivain, un poète de grande classe de notre Romandie. Autour de notre micro, Jeannine Buinzeau, écrivain, Vahé Godel, poète, tous deux amis de Gilberte Relliet. Jeannine Buinzeau, c'est tout d'abord vers vous que je voudrais me tourner pour vous demander de nous parler de l'homme que vous avez bien connu.
Oui, j'ai assez bien connu Gilberte Relliet dans ses dernières années genevoises et je l'aimais beaucoup. En partie, sans doute parce qu'il avait été un ami de mon père et qu'il avait gardé à la mémoire de celui-ci une affection et l'admiration fidèle. Une des dernières fois que je l'ai vu, il m'a confié son projet de consacrer un numéro de présence qu'il ne désespérait pas de ressusciter à Emmanuel Buinzeau, précisément, ce qui témoignait d'une grande fidélité et d'un mépris admirable des coteries et des mafias littéraires. Mais j'avais d'autres raisons d'avoir de l'affection, de l'amitié pour Troyes. C'était un homme très attachant et qui, chose en définitive relativement rare, ressemblait à son œuvre. Il y a bien des poètes qui sont moins attachants que leurs poèmes, hélas. Et Troyes, lui, qui était un homme doué pour l'amitié, mais réservé, discret, d'une grande finesse, avec beaucoup d'humour aussi. Il y avait en lui quelque chose, et jusque dans son apparence physique, svelte, dégagée, les yeux bleus d'un peu britannique. Troyes avait une qualité de délicatesse, une qualité d'âme tout à fait frappante. C'était un très naturellement un aristocrate. Et les poèmes de Blanc sur Noir, lorsque je les ai lus, ont évoqué pour moi d'une façon tout à fait saisissante la figure de leur auteur. Il y a en eux une simplicité savante, une pureté du trait, qui fait penser aussi à certains dessins de Matisse. Ces dessins qui ont l'air d'être la simplicité même, mais qui déploient autour d'eux mystérieusement un immense espace lumineux. Et il y a ça dans les poèmes de Troyes, et il y avait cela dans la présence de Troyes aussi. Cette justesse de cette justesse d'âme, cette élégance, n'était pas une impression superficielle. Elle s'est manifestée dans sa vie. Il le disait lui-même, il n'était pas l'homme de la tour d'ivoire. C'était un homme qui prenait à cœur ce qui se passait de dramatique, d'essentiel dans le monde contemporain. Et c'était un homme foncièrement généreux. Et j'en vois une preuve parmi bien d'autres dans l'effort qu'il a déployé en faveur de la création du maintien difficile de revues en Suisse romande. Vous savez qu'il a dirigé successivement ou animé plusieurs revues, sans doute j'en oublie, Raison d'être, Présence, la revue de Suisse. Il est facile de sourire de ses efforts, qui n'ont pas toujours été couronnés de succès ou pas aussi longtemps qu'il l'aurait fallu, lorsqu'on oublie à quel point il est difficile, peut-être même impossible, de faire vivre longuement une revue littéraire en Suisse romande. Le public est numériquement insuffisant, on l'a souvent rappelé, mais il y a aussi chez nous, il faut le dire, une espèce de mesquinerie, un conformisme, une absence de sens du risque qui fait que les mêmes personnes qui n'hésiteront pas à dépenser un gros billet pour aller gueuletonner ne donneront pas ces mêmes billets pour s'abonner à une revue dont ils ne savent pas à l'avance si ça leur plaira.
J'écris avec des habitudes, des fins, des rages, des secrets, des relents de tristes études, et même sans le faire exprès. J'écris à la vie interlope, à la chimère en ses cheveux, à la durée et sa breloque, à toi-même, si tu veux. Perché là-haut, comme la lune, assis dans l'ombre de ma main, j'attends la pluie, ô Rodogune, la seule à creuser son chemin. La rame qui fait bien les choses tâte le déluge. Et moi donc, je frémis de métamorphoses qui languissent du temps si long. Ah, tous les demains qu'on exhume, je les gaule comme des noix. Pour tromper un peu le bitume, j'irai bien vivre en Illinois.
Troyer a dû se sentir assez seul. Il en parle, il parle de cette solitude du poète sans aucune amertume, c'était un homme sans amertume, dans un très beau texte qui s'appelle Autoscopie et qui est un peu développé, le texte d'une conférence qu'il avait donnée à l'Institut National Genevois. J'étais frappé en relisant cette autoscopie de la modestie, de la simplicité, elle aussi très élégante, avec laquelle il parle du rôle du poète en qu'il refuse de voir un mage, un prophète. Il dit très drôlement que le narcissisme des poètes a fait bien du tort à la poésie. Mais il parle aussi de la solitude du poète et je pense que lorsqu'il a pris la décision de quitter Genève pour aller s'établir dans la province française, c'était peut-être un peu pour les mêmes raisons que Ramu, lorsque Ramu dit dans son journal « J'étais à Paris, je cite de mémoire, parce que là-bas j'étais solitaire, tandis que chez moi, en Suisse romande, j'étais isolé. » La Bourgogne où je transhume n'est pas loin. La Suisse dont je m'exhume, prendre soin de n'en médire plus souvent que le tremble n'est la lyre dans le vent.
La race de nos poètes tient du poulpe, du chacal. J'aime mieux les alouettes dans l'allegro matinal. La plus haute, la plus dense, chant de gloire, sans tari, touche à l'être du silence et s'abîme dans un cri. Rompue à même le chaume, si menue en la saison, Dieu la tienne dans sa paume au secret de la moisson.
Il parle avec beaucoup de franchise de cette solitude du poète dans une société d'abondance qui est indifférente ou méprisante à l'égard de ce qui n'est pas productif au sens économique du terme, et dans cette société de conformisme qui est dure aux êtres sensibles, plus intuitifs que les autres, plus ouverts aux mutations profondes. Le poète, estimait-il, s'il n'est pas un voyant, s'il n'est pas un illuminé, est un être plus apte que quiconque à discerner, à pressentir ces grandes mutations. Comment ne pas penser ici à cette belle image romantique de Vigny, vous savez, le poète qui lit la route dans les étoiles. De toujours, dit-il, l'art anticipe et porte témoignage de ce qui vient. Et il a raison. Quand on pense, c'est un détail, si l'on veut, mais un détail merveilleux, que Éluard a parlé de la Terre comme d'une orange bleue, et que quand les cosmonautes ont vu la Terre, enfin, ils ont dit, elle ressemble à une orange bleue. Le poète a toujours raison. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il s'est senti très, très seul, particulièrement à Genève, dans ces dernières années, pour des raisons qui tiennent à la nature même de cette ville, qui est une ville qui a ses mérites, qui a ses grandes traditions, mais c'est une tradition intellectuelle, c'est une tradition scientifique. Ce n'est pas une tradition de respect et d'amour des arts. À Genève, on aime les poètes quand ils sont commentés à l'université. Et Troyer avait une assez vive horreur, je crois qu'il faut le dire, de cette espèce de monopole culturel de l'université. Mais encore une fois, il n'y avait pas d'amertume chez lui, simplement une grande lucidité. C'est une grande chance de pouvoir entendre encore cette voix inimitable, retrouver cette présence précieuse, cette présence pleine de charme à travers une œuvre qui lui ressemble si profondément.
Genève, pont de la machine. C'est là qu'un matin, Thiboudet, dans sa pèlerine, comme en fraude, vint, se pencha, vit le flot rapide, le retint si fort que l'heure en demeure stupide. Et le temps est mort. Vous avez dit, Jeannine Buinzeau, tout à l'heure, qu'il ne vivait pas dans sa tour d'ivoire. Vous avez évoqué les revues. Et c'est vrai que dans ses revues, il a publié fréquemment des poètes et des écrivains de Suisse.
Oui. Là, je vous dirais que je suis mal renseignée, parce que d'abord, tout ça se passait à une époque où j'étais encore relativement très jeune. J'étais en présence et ces choses-là, c'est très loin, malgré tout. Mais oui, c'était très frappant parce que ce n'était pas du tout un homme de chapelle, mais il avait le rêve constant d'une sorte d'amitié entre créateurs. Il sentait cette espèce de froid qui environne les créateurs. Il souhaitait qu'ils trouvent non seulement une tribune, mais une occasion de se retrouver entre eux, de s'affermir dans leurs convictions, de s'affronter aussi courtoisement s'il le fallait. Mais oui, je pense qu'il a rêvé d'une sorte de petite république des poètes, mais là, Weigodel pourra vous le dire beaucoup mieux que moi.
Weigodel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui l'avez connu aussi, plus particulièrement, à une certaine époque de sa vie.
Oui, je l'ai connu à différentes époques de sa vie et de la mienne. Si je garde un fond de grande gratitude à l'égard de Trollier, c'est que, alors que j'avais 18 ou 19 ans, je crois, j'avais eu la hardiesse de lui envoyer quelques-uns de mes premiers poèmes, qui n'ont d'ailleurs jamais paru. Et il m'a très gentiment accueilli au Quai des Bergues, dans ce petit logement qu'il a gardé jusqu'à la fin de son séjour genevois, je crois. Et j'avais été très, très touché enfin, de cet accueil, qui était en somme la première occasion que j'avais de me trouver en tête-à-tête avec un écrivain. Et il m'avait offert plusieurs de ses livres, et c'est ainsi que j'ai pu pénétrer dans son œuvre, qui à l'époque était une œuvre de conception et de structure très classique. Je me souviens qu'il m'avait offert notamment un livre pour lequel j'ai gardé aussi un sentiment particulier du fait qu'il me l'avait donné dans cette circonstance, c'est l'inespéré. Donc la première fois que j'ai rencontré Trollier, c'était il y a fort longtemps, c'était à la fin des années 40, je crois que c'était avant 1950, en 48 ou en 49.
À cette époque-là, il était en plein dans les revues.
Alors il était un homme très actif, oui, il était directeur de revue, enfin il était, je ne sais plus, directeur de laquelle, mais enfin il avait une grande activité en effet, d'animateur de revue. J'ai retrouvé Trollier, alors passablement plus tard, en somme par le hasard de l'habitat, c'est-à-dire que je me suis trouvé à peu près son voisin, à Chêne-Bougerie. Nous habitions chacun à un bout de la même avenue. Nous nous rencontrions ainsi sur le trottoir, par hasard. Et allions boire un verre, tant toucher l'un, tant toucher l'autre, pas très souvent, et avec cette espèce de distinction dont parlait Jeannine Boinzeau tout à l'heure, quelque chose qui empêchait qu'on entre dans l'intimité de Trollier. Il avait une grande pudeur, quelque chose d'extrêmement réservé, mais en effet, on sentait chez lui un besoin de communiquer et une capacité de chaleur et d'enthousiasme, une fois que le contact était bien établi. Mais ce n'était pas un homme très démonstratif, n'est-ce pas,
non.
au premier abord.
Il y avait
une grande gentillesse avec cette élégance un peu britannique dont vous parliez,
une sorte de retenue. Une gentillesse qui me fait penser au mot de Duhamel, qui me disait une fois, il ne faut pas oublier que dans gentillesse, il y a gentilhomme. C'est une qualité profonde.
Oui, c'est exactement ce que j'ai toujours ressenti chez lui. Mais ce n'était pas de la froideur du tout. Et il était effectivement très fidèle. Ensuite, il a déménagé et nous avons correspondu pendant, jusqu'à une année de sa mort. J'ai essayé de retrouver sa dernière lettre. Elle doit dater de 79, donc elle est écrite près de Chalon-sur-Saône, où il a fini sa vie. Et il me parlait de sa solitude française, heureuse. Vous y faisiez allusion, ce qu'il m'a écrit à cette époque, confirme tout à fait ce que vous disiez. Je crois qu'il était heureux de s'être arraché à un isolement qui était devenu intolérable et irritant, parce que c'était un homme quand même assez irritable, que le climat littéraire, genevois, agaçait.
Il avait pris un petit peu en grippe.
Oui, il avait des mouvements d'humeur, il était parfois assez ombrageux même. Oui. Et alors il semblait avoir trouvé une espèce de sérénité dans cette région de la France.
Mais alors comment expliquer, je ne sais qui va répondre, expliquer cette solitude Weygaudel, vous dites que très jeune, il vous a reçu avec beaucoup de gentillesse, qu'il vous a reçu même avec chaleur, et comment peut-on expliquer alors qu'il ne se soit pas mêlé aux autres écrivains romans et qu'il n'ait pas eu des contacts d'amitié avec les autres écrivains romans?
Il en a eu tout de même des relations à travers ses entreprises, parce que ses entreprises étaient au fond des occasions de rassemblement, et il a lui-même contribué beaucoup à mettre en contact des gens, n'est-ce pas? Il était lié avec des gens, bien sûr, de sa génération, en premier lieu, mais avec des gens plus jeunes aussi, mais au fond, tous les gens qui ont publié dans ses revues étaient plus ou moins
de
ses amis, n'est-ce pas?
Oui.
Avec lesquels il entretenait des relations fidèles.
Alors, cette solitude, qu'est-ce que c'était?
Moi, je pense qu'il y avait aussi tout de même un élément d'âge, qui lui est arrivé comme à beaucoup, la guerre a constitué une coupure considérable. Il avait des amis à Paris. Justement, dans l'autoscopie, il évoque cette période heureuse de sa jeunesse parisienne. Et puis, il y a eu ce bouleversement profond, et plus rien n'était en place après. Je pense que ça a dû jouer un très grand rôle.
Oui, c'est vrai. Oui, il faut ici rappeler que ses débuts remontent au début des années 30, n'est-ce pas? C'est-à-dire à une époque où le mouvement surréaliste était encore en pleine activité, et où la poésie en France connaissait une sorte de bouillonnement et lui-même s'est trouvé mêlé à certains de ces mouvements poétiques. Il a publié son premier recueil important aux éditions des Cahiers du Sud à Marseille. Et c'est un signe aussi, n'est-ce pas? J'entends, on peut y voir
une vocation,
l'expression d'une relation très, très étroite avec les milieux littéraires français, où il avait été très bien accueilli, n'est-ce pas? Et c'est de ça qu'il gardait sans doute la nostalgie.
Mais son expression était l'opposé du surréalisme.
Eh bien, à ses débuts, disons qu'il a tout de même été un peu éclaboussé par le surréalisme. Itinéraire de la mort est un livre qui n'a rien de délirant, mais qui, par rapport à ses recueils ultérieurs, est traversé par une sorte de tumulte et de volubilité pleine d'images, souvent assez étonnantes, qui indique qu'à cette époque, et je le sais parce qu'il en convenait lui-même, il y avait une petite influence surréaliste à cette époque sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, en tout cas, d'Itinéraire de la mort, qu'il a eu la bonne idée de rééditer il n'y a pas très longtemps, dans une belle édition que j'ai ici sous les yeux.
Oui, mais je vois que vous avez ce livre et que vous l'avez ouvert à une page précise.
Oui, je l'ai ouvert à l'une des dernières pages où figure, donc en manière de postface, une lettre de Joé Bousquet. Alors, Joé Bousquet, c'est un nom aussi plein de signification. Il a été très lié avec Bousquet, comme avec d'autres grands poètes français à l'époque. Et Bousquet a aussi été en relation indirecte avec le surréalisme, mais s'est engagé, comme vous savez, dans une voie mystique, enfin une voie très, très personnelle. Et dans cette très belle lettre, Joé Bousquet fait part à Trelier de son enthousiasme que lui a inspiré la lecture d'Itinéraire de la mort. Et Bousquet cite notamment ce vers de Trelier, « Je vois la chair hanter la connaissance », écrit Trelier. Donc. Et Bousquet insère cette remarque dans la phrase suivante. « Quand vous écrivez « Je vois la chair hanter la connaissance », j'ai envie de crier tellement c'est cela, tellement ce point de départ où dort toute mon éthique me semble parfaitement par vous défini. » Et enfin, en relisant ces pages, en prévision de cette émission, je me disais que Bousquet, en somme, mettait, c'est le cas de le dire, le doigt sur la plaie, c'est-à-dire qu'il citait vraiment un vers qui reste absolument vrai en ce qui concerne Trelier, il me semble, du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui cette pudeur dont nous parlions, s'explique en somme par une espèce de visée extrêmement élevée, n'est-ce pas, qu'il apparentait à des pensées philosophiques qui lui étaient chères, comme Héraclite, par exemple, ou Nietzsche, ou bien les grands romantiques allemands. Hölderlin, qui le conduisait à envisager l'expérience poétique vraiment d'une manière un peu monacale et extraordinairement décantée.
Est-ce que vous ne trouvez pas significatif dans cet ordre d'idées l'intérêt qu'il a eu, particulièrement dans les dernières années, je crois, pour l'évolution de la science contemporaine?
Oui, oui, je pense que là est intervenue une nouvelle donnée alors à laquelle il était moins sensible à l'époque. Je pense qu'à l'époque, certaines pensées philosophiques, non pas épistémologiques, mais vraiment philosophiques, ont joué un rôle important. Ensuite, je sais toujours, si je me souviens des conversations que nous avons eues, qu'il s'est passionné pour la psychanalyse, la psychologie.
Ça, oui. La Jung, psychologie des profondeurs.
Les profondeurs, oui. Mais Jung plutôt que Freud, oui. Par exemple, ce qui est aussi significatif. Et que son intérêt pour le développement des sciences et pour les effets enfin de l'évolution de la technique et de la science dans le monde contemporain, disons, date tout de même d'après Hiroshima, c'est-à-dire qu'il a été secoué, comme tant d'autres, comme nous-mêmes, je pense, par l'explosion de la première bombe atomique. Enfin, il a eu le sentiment très fort, parmi bien d'autres, qu'on entrait dans une époque nouvelle. Et c'est à partir tout de même, me semble-t-il, de cette époque, c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion profonde qui s'est effectuée dans les années 50 et qui s'est exprimée peut-être avec un léger retard, avec par exemple le grand poème La Colline, dans une forme encore classique. Et ça expliquerait peut-être, mais c'est une hypothèse, le besoin qu'il ait éprouvé, peu de temps après, d'abandonner la prosodie classique pour inventer une prosodie tout à fait différente, laconique, n'est-ce pas, comme c'est le titre d'un de ses recueils, où les exigences rythmiques et phoniques demeurent aussi grandes qu'auparavant, mais où le poème tend à une sorte d'aphorisme qui a presque une forme un peu idéogrammatique sur la page, et où s'expriment des choses très crues, très direct, enfin très en prise directe avec les préoccupations de l'homme contemporain.
Télévision. Savent-ils encore lire? Tous ces gens affalés dans leur empire d'indigents? Rimbaud fustigeait naguère les assis. Cherchez point sa fin dernière. Les voici.
Qui le conduit d'une conception d'abord très cérébrale, disons, et en même temps proche de Valéry et de Mallarmé, n'est-ce pas, une façon de cultiver une espèce de mythe de la poésie, où effectivement la connaissance l'emporte sur le côtoiement de la chair, et qui s'ancre progressivement dans la réalité la plus sanglante de notre temps. En quoi il a eu une évolution, je dirais, merveilleuse, parce qu'on peut y voir une lucidité croissante, n'est-ce pas ? C'est un homme, je pense, qui a toujours été soucieux de garder la tête froide, enfin de garder une lucidité extrême en toute chose.
Mais en même temps, il me semble que c'était de très longue date un homme qui se sentait solidaire de.
Oui, mais qui n'exprimait peut-être, qui n'aurait jamais, qui n'aurait jamais songé à l'exprimer comme il l'a fait dans ses derniers recueils. Alors ça, je crois qu'il y a un changement de ton et même de vocabulaire qui est très.
Ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a paru préoccupé non seulement par les conséquences d'ordre moral de la physique contemporaine, la bombe d'Hiroshima, mais aussi par la vision nouvelle du monde que propose cette physique.
Absolument.
Il y a quelque chose d'à la fois scientifique et philosophique, et en même temps, ça reste de la très belle poésie.
Tout à fait.
Ça fait penser un peu à Lucrèce, quelquefois.
Oui, oui, certainement. N'est-ce pas ?
Ben moi, je veux dire que parfois, j'ai eu le sentiment d'une sorte de désincarnation dans sa poésie, particulièrement la poésie très classique. Et lorsqu'il est arrivé à ses poèmes très brefs, qui sont très concentrés aussi, et qui sont, comme vous le disiez, Weigodel, en prise directe avec la réalité, je n'ai pas toujours eu le sentiment qu'il s'impliquait lui-même. La lucidité, c'est, je crois, le mot juste, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il se mettait, lui, dans le bain ? J'ai pas eu ça.
Quand je citais le vers que cite Bousquet, « Je vois la chair hanter la connaissance », je voulais dire par là qu'il y a, chez Trollier, une espèce de crainte d'exprimer, disons, son intimité charnelle, si vous voulez, et que son effort a toujours porté en poésie à dépasser ce genre d'observation, ce qui expliquerait qu'il est...
Mais d'autre part, je pense que la très grande lucidité signifie nécessairement qu'on s'implique en profondeur.
Oui,
mais
on s'implique à au-delà. On s'implique à un autre niveau, n'est-ce pas, c'est ça. Oui. Disons, sa peur du jeu, sa peur de... d'une poésie axée sur le jeu expliquerait, illustrerait précisément cette
démarche. Qui pourtant, à l'époque, était assez typique de la poésie de notre pays.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait supposer peut-être que le langage, l'évolution de son langage, il me semble assez difficile, lorsqu'on emploie une forme tout à fait classique, de s'impliquer dans une réalité directe.
Il excluait l'événement, n'est-ce pas, la poésie de Trollier, à l'exception de ses derniers recueils, justement, qui font allusion à des événements précis. Enfin, il y a des poèmes qui ont pour titre des événements politiques, n'est-ce pas, ce qui était tout à fait inconcevable, ce qui aurait été inconcevable auparavant. Il y a une manière de transcender l'événement ou de l'exclure, d'une certaine façon, de son champ de vision, un peu comme chez Mallarmé, si vous voulez, ou comme chez le grand poète roman qui l'a certainement le plus marqué, et qui est Pierre-Louis Mathey. Alors Mathey a été le grand maître de Trollier, ça, il me l'a dit assez souvent à l'époque. Il reconnaissait en Mathey, à l'époque où il écrivait ses poèmes de forme classique, le grand maître en la matière.
D'ailleurs, on trouve de grands thèmes qu'on trouvait chez Mathey, on les retrouve chez Gilbert Trollier, c'est-à-dire le temps et la mort.
Voilà, mais pas la chair.
Je n'irai plus que pour mémoire, où que j'aille. C'est fou le vent avec ses mèches en bataille, sa valise vaille que vaille. On est dehors, on est dedans. Décidez-vous, clame la bise, êtes-vous dedans ou dehors? Nulle échéance n'était prise, toujours la parole incomprise et la bouche clamant si fort. Aussi, je m'absente. J'assiste le pour et le contre. Entre nous, l'absence est-elle gaie autrice. Le vent de lune, s'il existe, n'est qu'une cabane bambou. Que hante dès lors la mémoire, plus de hôte qu'il n'en fallait. L'une pleine de mer à boire, l'autre vide, mais c'est la gloire, invisible comme un galet. Jeanine Guinzo, le problème du temps, est-ce que vous l'avez ressenti lors, dans vos discussions ou dans vos
rencontres? Oui, bien sûr, l'image du fleuve, n'est-ce pas, est constante chez lui. Mais je pensais, excusez-moi, je suis en retard d'une idée, je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure, ce détachement, et je me disais, ce détachement apparent, en fait, qui est le contraire de l'effusion facile, du déboutonnage, si l'on veut. Et je pensais à ces messieurs de Port-Royal, liés d'une étroite amitié, qui s'appelaient toute leur vie, monsieur, vous voyez, il y a beaucoup de cela chez lui.
Mais vous évoquez Port-Royal, justement, et j'utilisais le mot monacal tout à l'heure. Il y a quelque chose qui expliquerait, enfin, la solitude dont vous parliez. Il y avait un besoin de, non pas de s'enfermer dans une tour d'ivoire, mais de se situer au-dessus, enfin.
Je pense qu'une certaine qualité, une certaine exigence de qualité crée très spontanément.
Il y a un mot qu'il aimait beaucoup, c'est l'hypostase. J'ai retrouvé ce mot dans plusieurs des lettres qu'il m'a adressées. Il faut hypostasier, enfin, je crois que c'est assez significatif, hein, de ce besoin de monter. Enfin.
Il y a tout de même une chose que j'aimerais pas qu'on laisse de côté, particulièrement dans les derniers recueils de Trollier, il y a une sorte d'humour.
Ah, beaucoup même.
Très corrosif.
On ne sait jamais s'il est grinçant, s'il est corrosif, s'il est innocent ou s'il est agressif, mais en tout cas, il est très présent.
Oui, il est aussi amer, enfin souvent, il faut le dire. Enfin, tout n'est pas serein, il y a des poèmes qui sont très 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 durs, hein, et qui ont une façon d'évoquer le vide, le néant, l'anéantissement, qui me rappellerait, moi, un des grands moralistes contemporains, c'est Cioran.
Oui, et dans l'ordre de l'humour, il y a des portraits qui sont d'une drôlerie tout à fait féroce.
Oui. Oui, ça va de la drôlerie à l'ironie la plus impitoyable, je dirais. Oui.
Il y a aussi du jeu de mots, parfois.
Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau chez lui. Les dérives, les... Oui. Et c'est une des choses qui avait attiré l'attention de certains jeunes poètes sur l'œuvre de Trollier. Oui.
Qu'il considérait comme un des leurs et qu'il acceptait...
qu'il trouvait qu'il y avait dans la poésie de Trollier un traitement du langage qui n'était pas très éloigné de leur conception.
Bouche sans voix, le vent plombé, le fond. Le fond de quoi? Le fond de la bouteille ou d'une quelconque merveille? Le fond du corps agonisant, le fond des bois? Le fond des yeux vides, comme tu vois? Le fond de l'étendue, adieu mes anges vertes qui plongeaient à la découverte. Le fond de l'heure où le temps est blotti, si terrifiant, si petit. Le fond de l'antre où les bêtes s'assemblent. Le fond du sac et celui, que vous semble, qu'une larme laisse incomblé. Le fond d'où je vins appeler. Le fond du ciel et son air lacustre. Le fond de culotte, le rustre. Oui, c'est le fond, comme les rêves font, rien n'y pèse, tout s'y confond. Le fond de la mémoire hantée de figues mûres, le fond de la pensée et sa double figure, le fond des âmes, mais pardi. Le fond de la semaine, avec un samedi, le fond des âmes le dimanche, le fond du péché, on y penche. Le fin du fond. Le fond sans fin, le fond qui mange la faim. Ce qu'est le fond, ce qu'il propose. Un mot pour le dire. S'il l'ose. Vous avez parlé du langage et j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ce cheminement du langage et particulièrement des mots qui, peu à peu, sont apparus dans l'œuvre de Trollier et qui semblaient, en tout cas dans sa période de classique, ces mots semblaient impossibles pour lui dans sa poésie. Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors, est-ce que c'est vraiment la transformation de l'homme qui a abouti en même temps à un nouveau langage ?
Oui, il y a l'évolution de l'homme, je pense, qui, disons, se traduit par un changement de rythme, par exemple, de respiration. Ce n'est pas la même respiration parce que lui-même était en mutation constante. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'explique d'une façon viscérale, un besoin de rupture. Et puis, il y a, disons, toute l'influence des événements. Comme je disais, j'évoquais Hiroshima, il me semble qu'il y a là un point de rupture qu'on trouve aussi dans l'œuvre de Trollier.
Une sorte de décantation dans le dernier volume.
Oui, oui, c'est ça, une façon alors de se dépouiller de tout ce qu'il y a,
tout à fait trompeuse.
De tous les symboles, enfin de tout l'arsenal symboliste ou symbolard.
Une simplicité, vous savez, qui me fait penser à ces petits morceaux que jouent de très grands pianistes en bis à la fin d'un concert. Ils reprennent un fragment d'une sonate de Mozart qu'on croit savoir par cœur et ils jouent cela divinement. Des choses qui ont été annonnées par des milliers d'élèves et... C'est une simplicité miraculeuse. Il y a dans les derniers poèmes des choses qui font penser à cela.
C'est vrai.
Vous parlez de blanc sur noir.
De blanc sur noir.
Ces poèmes
de blanc sur noir.
C'est tout de même assez caractéristique de voir que l'éditeur a publié ces poèmes dans une collection qui s'appelle Poésie et Humour.
Je n'avais même pas remarqué cela.
Blanc sur noir, je ne pense pas que ce soit le meilleur recueil de Trollier. C'est un recueil émouvant. Où peut-être on trouve le plus de références à sa personne privée, en effet. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi dense que les recueils précédents. Mais il y a une constante chez Trollier, en dépit de cette révolution formelle qu'il a accomplie, c'est le souci de la rigueur, parce que ces petits poèmes sont d'une rigueur absolue. Au point de vue prosodique, il n'y a pas un pied de trop. Ce sont souvent de faux alexandrins, d'ailleurs. Ce sont des alexandrins simplement disposés autrement. Il y a un côté virtuose chez Trollier à partir de la rime. Alors, la rime, chez lui, est un générateur et un élément qui détermine beaucoup de choses. Et dans les petits poèmes qu'il a écrits à partir des années 60, il y a des combinaisons de rimes et des associations de termes par la rime qui sont tout à fait extraordinaires. Mais cette virtuosité, on l'a retrouvée dans les poèmes de forme classique, alors aussi bien, dans les allitérations, dans les jeux de correspondance. Donc, disons, la technique est appliquée à autre chose, mais elle reste d'une rigueur et d'une habileté assez étonnantes.
Il parle du reste dans l'autoscopie avec une sorte de fierté d'artisan du métier des mots, avec un mélange de grande modestie et de grande exigence. En parlant, par exemple, de cet heureux mélange de la poésie qui devrait traduire l'heureuse constellation de la gravité, de la légèreté, et cite un mot merveilleux de Goethe, « Zwar ist es leicht, doch ist es leicht schwer ». Et on comprend qu'il ait beaucoup aimé cette phrase-là.
J'aimerais que vous la disiez en français pour nos auditeurs.
Certes, c'est facile, mais là, évidemment, il y a le jeu de mots sur « leicht » qui veut dire en même temps « facile et léger », n'est-ce pas ? Mais ce qui est facile ou ce qui est léger est difficile, ou lourd. Vous voyez, c'est intraduisible malheureusement, parce qu'il y a les deux sens.
Vous avez tous les deux fait mention au côté musical, au côté rythme de Gilles Bertrollier, mais je voudrais aussi qu'on aborde le côté peinture. Il y a comme de petits tableaux, particulièrement dans ces petits poèmes, il y a tout d'un coup un tableau qui apparaît, quelque chose de très précis et qui parfois m'a rappelé les petits haïkai japonais.
C'est une ressemblance, c'est une fausse ressemblance,
oui, je crois. Aussi.
Parce que la visée n'est pas du tout la même. Disons que sur le papier, ça peut faire songer au haïku, mais je crois que la saisie de l'objet n'est pas du tout perçue de la même façon chez Trollier que chez le japonais. C'est-à-dire que chez Trollier, il y a une perception très, très intellectuelle, dans le bon sens du mot, hein, mais dans le sens très occidental du mot. C'est-à-dire que il y a toujours une intention philosophique.
Ah oui, toujours.
Oui. Alors que dans le haïku japonais, jamais, justement, ça n'est jamais une réflexion philosophique. C'est une.
Mais il y a aussi une extrême sensibilité à l'instant présent. Des moments privilégiés, des moments heureux, baignés dans une sorte de lumière solaire qui sont arrachés au temps.
Tout à fait, mais je veux dire qu'entre liés d'arbres ou tasses, c'est pas du tout de la même façon qu'un poète japonais ferait allusion à ces mêmes choses, n'est-ce pas, ces mêmes objets.
Sur le banc de jadis, le banc de la distance, des fans de radis et des tonnes d'absence. Sur le banc d'aujourd'hui, le banc de l'indistance, l'aveugle, tu me suis, n'est plus que vigilance. Je le regarderai, ce semblable, mon frère. À la fin, je saurai. Pauvre vocabulaire, je saurai d'où l'on vient. Qui chantonne, qui passe, qui promène son chien, qui rameute l'espace. Les étoiles, je veux qu'on les grave, ma toute. Blancs seront les cheveux et les astres s'en foutent. Nous, ce soir ou demain, dansons la marjolaine. Le temps est trop humain. Les bancs ont de la veine qui racole ainsi l'un et l'autre intrépide.
Au côté musical, au côté rythme de Gilles Bertrollier, mais je voudrais aussi qu'on aborde le côté peinture.
Où nous sommes assis, l'heure sans une ride.
Je vous demande un peu ce qu'est l'eau sans visage, le fer sans lance, le dieu sans l'évidence. Le cri jeté sans l'homme, l'homme sans l'homme, et moi sans vous.
Pourquoi avez-vous choisi ce poème, Weigodel ?
Ah, parce que je trouve que c'est un très beau poème. Et disons, il y a là peut-être. Enfin, je pense que c'est une. Enfin, à mes yeux, c'est un des. Ça figure parmi les très bons poèmes de Trollier. Il y a une sorte de point limite, là, où le jeu, la sensibilité. L'engagement, parce que là, il est dans son poème,
oui.
On le sent très présent. Tout ça se trouverait uni, confondu. Alors, dans tel autre poème, les choses sont peut-être plus distinctes.
Thank you.
Et quoi ? Le temps, le vieux délire et son hocher, le temps qui nous agresse, ou pire, qui se cachait. L'heure envolée au bout du compte comme l'oiseau, l'heure nulle que je vous compte sur mon roseau.